pour vous guider, Rego et Béna. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à Vienne en Isère, pour une visite de la Halle des Bouchers, qui abritait l'exposition intitulée « De la main à l'esprit ». Cette exposition s'est achevée le 14 février 2016. D'abord, la Halle des Bouchers, Rego, peux-tu nous présenter ce bâtiment ?
C'est un lieu historique à la rencontre du présent. En 2012, la ville de Vienne confiait à l'architecte Jacques Scritori l'aménagement de la Halle des Bouchers pour en faire le centre d'art contemporain de la ville de Vienne. Situé rue Test du Payet, au cœur du centre ancien de la ville, l'édifice date du XVIe siècle. L'originalité de ce lieu historique réside dans ses caractéristiques architecturales remarquables. En effet, la Halle des Bouchers s'ouvre sur une salle voûtée sur piliers. C'est cette particularité qui a incité la ville de Vienne à consacrer cet endroit au développement culturel de son territoire. Un lieu forçant les contrastes, où les marques du passé seront mises en résonance avec les œuvres d'aujourd'hui. Le directeur du Centre d'art contemporain, Marc Benbekoff, nous a reçus. Béna l'a interrogé sur la Halle des Bouchers. On l'écoute.
Bienvenue donc au Centre d'art contemporain, la Halle des Bouchers, qui est un des derniers lieux dédiés à la création contemporaine ouvert en région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes-Auvergne, devrais-je dire maintenant, mais aussi un des derniers centres d'art créés en France, puisque le centre d'art ici a été inauguré en mars 2014, donc on va fêter nos 2 ans d'existence dans quelques semaines. Le centre d'art est un service municipal de la ville de Vienne qui est soutenu par la région Rhône-Alpes, par le ministère de la Culture et par, évidemment, le département de l'Isère, puisque nous sommes au sud de Lyon. Donc, bien que nous soyons à proximité de Saint-Romain-en-Galles, nous sommes dans le département de l'Isère, le Nord-Isère, comme on l'appelle ici. Alors, pour revenir sur l'histoire un peu de ce centre d'art, nous sommes ici dans un bâtiment qui date du XVIe siècle. Ce qu'on appelait à l'époque un macel, c'est-à-dire en fait un lieu de vente de viande, un marché en quelque sorte, d'où le nom du centre d'art, la Halle des Bouchers. Nous sommes dans une... Donc le bâtiment ici est vraiment un bâtiment historique, et on n'est pas du tout dans un centre d'art, je dirais, traditionnel, ou ce qu'on appelle le cube blanc ou le white cube muséal. Donc on est dans un endroit avec une architecture très marquée. Et pour revenir sur l'histoire du lieu, la ville connaissait, donc cet endroit était une propriété privée. Alors pour les Viennois, ou même au-delà, jusque dans les à partir des années 90, c'était la salle des ventes de la ville de Vienne, qui a déménagé au début des années 2000 en banlieue de Vienne. Et à ce moment-là, la ville, connaissant le cachet et l'intérêt architectural du site, a décidé de le racheter et d'en faire une vocation culturelle. Et de là a émergé l'idée d'en faire un centre d'art contemporain. On a fait intervenir un architecte qui a restauré le lieu, qui a essayé d'en faire un lieu d'exposition, tout en conservant évidemment le cachet d'origine du lieu. Alors, on est dans un espace voûté, effectivement, avec des piliers. On est sur 2 niveaux, tout simplement parce que, au fil des siècles, il y a eu des remblais, les niveaux des rues ont augmenté, du coup, des remblais se sont faits également à l'intérieur des bâtiments. Donc, on est dans un espace assez particulier. L'idée, moi, quand je suis arrivé ici, en tant que garant du programme artistique, était d'inviter des artistes nationaux, internationaux, des artistes qui peuvent également travailler dans la région, bien évidemment, à prendre en considération le lieu dans lequel nous sommes et de jouer avec.
D'accord.
Donc chaque exposition essaye aussi de reconfigurer, de jouer avec l'esprit des lieux, genius loci, comme on l'appelle en latin.
On est sur de la création in situ.
Principalement, alors après, malheureusement, je dirais, et c'est un peu le nerf de la guerre, les budgets ne permettent pas forcément de produire l'intégralité d'une exposition. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, de privilégier des productions effectivement in situ. C'est un peu, en général, saupoudré aussi d'œuvres qui existent déjà et qui correspondent tout à fait à l'idée même ici du lieu. Alors, comme nous sommes dans une ancienne halle de boucher, il était important pour moi, en arrivant, de donner le nom de ce centre d'art. Alors, c'est un nom qui est un peu long, mais je n'aime pas trop les acronymes type CAC ou centre d'art. Donc pour moi, c'est très important d'appeler ce lieu le centre d'art contemporain, la Halle des Bouchers. Comme je vous le disais, c'est long, et je vous l'accorde tout à fait, mais pour moi, c'est important parce que ça reflète la fonction actuelle du lieu, donc, qui est un centre d'art contemporain dédié à la production de l'art d'aujourd'hui. Et en même temps, ça nous renvoie à la Halle des Bouchers, et donc la fonction originelle et le lieu particulier dans lequel nous nous trouvons. De la même façon, en arrivant ici, Vienne est très connue, je dirais, pour ses vieilles pierres, et je ne dis pas ça du tout de façon péjorative. C'est vrai qu'on a un temple à proximité, on a un théâtre, il y a le musée de Saint-Romain juste en face, mais la création contemporaine était très très peu présente à Vienne. Et donc il y avait un a priori, forcément, à la fois, je dirais, des élus, mais aussi des Viennois. Donc c'est vrai qu'une des missions premières ici, c'est de démocratiser, ou de prêcher la bonne parole par rapport à l'art contemporain. L'idée était vraiment de désacraliser un peu, de ne pas être dans quelque chose d'élitiste. Et de cette façon, on a mis en place en fait toute une signalétique, une charte graphique qui s'inspire du monde de la boucherie-charcuterie. D'ailleurs, nous sommes là à côté d'une vitrine. Plutôt que d'avoir un vinyle traditionnel ou une bâche traditionnelle, en fait, je fais intervenir un peintre en lettres qui peint les titres des expositions à chaque fois. Et du coup, ça nous rappelle un peu les devantures des boucheries-charcuteries anciennes. De la même façon, on a mis en place différents types de formats de médiation. Donc on a notamment la feuille de boucher, qui est un document de médiation, un document d'aide à la visite. Et voilà, plutôt que d'appeler ça feuille de salle, on a appelé ça feuille de boucher. C'est une métaphore pour moi un peu de décortiquer ce gros morceau de viande. Et c'est une petite publication qui donne les clés de lecture, de compréhension de l'exposition, des œuvres. Et en même temps, on a aussi ce qu'on appelle des focus. Quand on utilise un terme, par exemple, on cite Picasso, je dis ça par hasard, et du coup, on explique voilà, un peu la vie et l'œuvre de Picasso dans un petit appart. De la même façon, on a des formats de visite, notamment le dimanche à 15h, que sont notamment les bavettes du dimanche. On a également tout un programme que sont les filets mignons, qui sont des moments de rencontre, d'ateliers, de conférences, en présence de différents intervenants. Et l'idée est de croiser les différentes disciplines, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant un musicien qu'un plasticien, qu'un historien de l'art.
Béna, peux-tu nous présenter l'exposition avec un regard sur la collection du Collège Ponsard ?
Dans cet espace plein d'histoire, donc l'exposition qui porte le nom de « La main à l'esprit », un regard sur la collection du Collège Ponsard. C'est un fabuleux héritage que cette collection, qui appartient toujours au Collège des Jésuites de la ville de Vienne, donc le fameux Collège Ponsard. C'est son principal des années 1980, qui se nomme Michel Sauteil. C'est un amoureux des arts, il en est à l'origine. On vous laisse retrouver une des médiatrices qui explique la genèse de cette collection.
Bonjour à tous. Ici, une belle opportunité aussi de mettre en avant le travail qu'a effectué Michel Sauté, qui était directeur du collège Ponsard, qui est donc un collège jésuite qui date de 1604, qui est juste un peu plus haut dans les hauteurs de Vienne, qui, dans les années 80, malheureusement, souffrait d'une mauvaise image. Il était assez vétuste et ce monsieur, Michel Sauté, a vraiment apporté un vent de moté en modernisant les locaux, en instaurant également un laboratoire photo et en mettant en place ce principe de fonds d'art contemporain, en élaborant chaque année des expositions monographiques, en invitant des artistes de renommée nationale, internationale, à venir travailler, exposer leurs œuvres dans le collège même, collège Ponsard.
Donc c'était le précurseur de ce lieu-là.
Tout à fait, cette exposition vraiment a démarré grâce à lui. À partir de 1990, on a la première exposition qui est lancée. Donc ça va être le commencement de ce fonds d'art contemporain parmi lequel tous les étudiants vont pouvoir baigner tout au long de leur scolarité, avoir des œuvres dans toutes les salles de classe, le gymnase, exposées vraiment dans tous les locaux possibles, réfectoires et autres, au sein même de l'édifice. Et donc chaque année, comme je vous le disais, ces artistes, je vous en citerai quelques-uns, Jean Messager, Olivier Debré, Combas, James Pichette, j'en ai toute une liste, jusqu'en 2004, vont présenter leur travail. Et donc à l'issue de ces expositions, qui durent en général 3 semaines, 1 mois, les artistes donc vont non seulement pouvoir acheter certaines des œuvres présentées, vous avez également tout ce principe d'estampes qui vont être éditées à tirage limité selon des œuvres originales de l'artiste. Donc ça va constituer au fil des années un fonds de environ 300 œuvres, dont vous allez voir ici une sélection d'œuvres abstraites. Donc ici, vous ne verrez que des œuvres, entre guillemets, voilà, abstraites, avec l'idée d'un geste spontané, un geste qui soit maîtrisé dans la composition, ou justement impulsif et spontané.
Ce lieu est ouvert une fois par an, lors des journées du patrimoine, sinon pas de possibilité de voir cette collection. C'est pourquoi la Halle des Bouchers s'en est emparée, du moins en partie, pour cette exposition. Le directeur, Marc Benbekov, qui est un jeune commissaire ou curateur de talent, a complété cette présentation par une œuvre empruntée à la FRAC Champagne-Ardenne, et aussi par quelques œuvres appartenant aux artistes exposés. Juste pour info, les FRAC, ce sont les fonds régionaux d'art contemporain qui ont été créés en 82-83 dans la foulée des lois de fer sous la décentralisation, et c'était donc créé par Jacques Lang. Ces fonds ont pour triple mission: acheter des œuvres d'art contemporain en vue de constituer des collections, assurer la diffusion de ces œuvres et sensibiliser la population à des créations contemporaines.
Je dirais la partie principale de cette exposition, donc c'est effectivement le fond du Collège Ponsard. Et en parlant notamment avec Paul Raguenès, donc un artiste qui vit justement dans la région de Vienne, je dis voilà, j'aimerais intégrer ton œuvre dans l'exposition. Il dit, ah mais cette œuvre que j'ai donnée au Collège Ponsard en 1995, en fait, elle fait partie d'un ensemble plus vaste pour lequel j'expérimentais dans mon atelier et j'ai encore les feuilles. Du coup, je dis, mais écoute, c'est l'occasion idéale pour présenter la globalité de cette série, et c'est la raison pour laquelle on retrouve au mur donc cette œuvre qui fait partie du fonds Ponsard, et parallèlement à même le sol. Donc là, je voulais un peu recréer finalement cet espace d'expérimentation qui est celui de l'atelier de l'artiste, et en même temps c'était une façon de créer un cheminement, une déambulation dans l'espace, en présentant donc ces 22 dessins posés à même le sol de cette même série.
On écoute à nouveau notre médiatrice.
Vous allez voir ici une sélection d'œuvres abstraites. Donc ici, vous ne verrez que des œuvres, entre guillemets, voilà, abstraites, avec l'idée d'un geste spontané, un geste qui soit maîtrisé dans la composition, ou justement impulsif et spontané, comme on peut le voir avec ce premier artiste dont je peux vous parler ici, qui s'appelle Paul Raguenès, qui est un des rares artistes encore parmi nous de l'exposition, qui travaille et vit à Vienne, et travaille à Lyon également, il a une galerie à Lyon. Donc c'est un artiste qui, dans les années 90, par exemple, a repris, on peut dire, le principe du dripping de Jackson Pollock. Alors vous avez 22 feuilles qui étaient exposées dans son atelier à même le sol. Et donc avec cette matière manufacturée, là ici on a une œuvre composée de bitume et d'essence, l'artiste va littéralement projeter la matière sur ses feuilles, créant ainsi cette matière qui va justement entamer le papier. On a ces effets de projection, de constellation, que l'artiste lui-même dont l'artiste ne connaîtra pas le résultat final. C'est vraiment le principe de l'expérimentation. Comme Jackson Pollock faisait couler le long de son pinceau la peinture, Paul Raguenès, lui, va littéralement la projeter. Donc vous avez au sol, pour reprendre cette idée de travail, d'expérimentation de l'atelier, redisposé un petit peu partout dans la salle du centre d'art, ces feuilles de l'artiste qui font partie de sa collection personnelle. Une seule œuvre, celle qui est exposée au mur, appartient au Collège Ponsard.
En tout début d'interview, Monsieur Benbekov nous parlait de la fameuse feuille du boucher. C'est un bulletin d'information qui est donc diffusé par le musée, qui est vraiment très très bien fait, hyper pédagogique. Et donc, il y a un certain nombre de mots qui sont expliqués, ce qu'il appelle sur lequel il y a des focus. Pour Paul Raguenès, on trouve entre autres la définition de l'action painting, qu'il faut traduire par peinture active, et le dripping. Juste pour le plaisir de faire un petit apport technique, le dripping, la coulure ou faire couler, n'est pas un acte gratuit, mais il a toutes les fonctions d'une touche de peinture. Son choix se fait pour répondre à une intention de l'artiste. C'est un peu l'équivalent, c'est une touche. Après cette découverte d'un travail fait dans l'intention à quatre mains avec la matière, La Halle des Bouchers nous propose de découvrir une toile faite de précision, de répétition de lettrage. Mais je vous laisse imaginer. Une nouvelle médiatrice nous présente ce travail.
On a dans cette exposition des tableaux où on va avoir des artistes qui vont, avec un geste dans l'immédiateté, la spontanéité du mouvement, qui va donner un résultat, et puis d'autres, comme Mehdi Kotbi, où on est plutôt dans un geste plutôt précis. Les enfants me disent souvent que ça demande de la lenteur, du silence aussi, sûrement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une œuvre méditative, qui est dans la répétition du geste aussi, donc un geste précis, puisqu'il demande une technique, ce geste, puisqu'on est... On est dans la calligraphie arabe, l'art de l'écriture. Il demande aussi à travailler avec des outils bien précis, donc ce fameux kalam, cette plume en bambou qu'on va tremper dans l'encre, et on va répéter, d'accord ? On va écrire. Et ce qui est intéressant chez Mehdi Kotbi, c'est qu'il n'utilise pas l'écriture comme forme pour donner du sens, écrire une phrase en calligraphie, et donner du sens, c'est l'art d'écrire, mais... On donne un sens parce qu'on va écrire une poésie, il va y avoir donc une représentation de l'image comme ça. Non, lui, c'est plutôt, il va utiliser la calligraphie comme moyen graphique. Il y a vraiment moyen, c'est un moyen graphique pour à dessiner, puisqu'il va s'amuser effectivement à écrire. Donc on est dans le mouvement, dans la répétition, à écrire ces mots, ces phrases, utiliser l'écriture arabe, mais il va aussi poser l'écriture. Superposer aussi, il va y avoir un travail de position, de superposition et de répétition. Et ce qui va donner du rythme, du mouvement. Toutes ces œuvres, qu'elles soient d'un geste spontané ou d'un geste précis, l'artiste, en tout cas, il est dans cette recherche-là de peut-être musicalité, ou peut-être aussi de traduire, transcrire la petite musique intérieure. C'est, voilà. Donc soit d'un geste spontané, soit d'un geste plutôt effectivement précis, qui demande de la concentration, qui demande de la technique. Et on a deux espaces comme ça, deux territoires, et avec une dominante de couleur, une couleur bleue, donc il est près de la mer, il vit et travaille près de la mer, alors on peut imaginer... Effectivement, il a des influences, voilà, c'est des influences de couleur.
Il est complètement avant-gardiste par rapport à la calligraphie habituelle. Même Hassan Massoudi est très classique.
Oui, c'est un artiste.
Donc il est aussi bien, il me semble qu'il est aussi bien moderne dans sa façon d'écrire quelque chose qui ne soit pas lisible comme.
Expérience, c'est vraiment des artistes pour tous qui sont dans des expériences, aussi bien, je vous dis, dans une recherche de la matière, du support. Olivier Debré, il va travailler avec des brosses, on a Soulage, l'atelier de Soulage avec ses outils transformés et qu'il en fait sienne. Et ben là, on a aussi des artistes qui vont aller dans cette recherche-là et qui vont aussi sûrement être les prémices, les 80-90, de ce corps en mouvement, de cet artiste en mouvement. D'où le fait, effectivement, d'avoir vraiment une résonance avec la vidéo de Nicolas Flock.
Une vidéo de Nicolas Flock, donc empruntée également au FRAC Champagne-Ardenne, vient compléter cet ensemble d'œuvres en marquant cette relation physique entre la main et l'esprit. Marc Benbekov nous en parle.
En fait, on est dans une exposition, donc cette exposition de la main à l'esprit, on est dans une exposition qui est une des plus traditionnelles finalement depuis que je suis arrivé au centre d'art, puisqu'en général, donc, les artistes sont invités à vraiment prendre la mesure des lieux, à créer des installations immersives en quelque sorte. Là, on est plus dans un accrochage, somme toute, assez traditionnel. C'est la raison pour laquelle il est important pour moi de présenter, en plus de ces œuvres provenant du Collège Ponsard, cette vidéo donc, de Nicolas Flock, un artiste qui est né en 1970, une œuvre qui appartient à la collection du FRAC Champagne-Ardenne. Et en fait, cette vidéo me semble être un bel écho, un peu à la thématique, j'utilise ce terme entre guillemets aussi, ou à la problématique de l'exposition autour de cette question du corps, du geste, de la main de l'esprit, puisque dans cette vidéo, on voit Nicolas Flock a collaboré avec un danseur et chorégraphe qui s'appelle Rachidou Ramdan, et il a demandé donc à ce danseur, donc vêtu, complètement habillé de blanc, qui se trouve dans un espace immaculé blanc, de danser, enfin du moins de faire des gestes, de gesticuler, devrais-je dire, au fur et à mesure que de la peinture fraîche, d'abord noire et un peu plus blanche et grise, va couler sur son corps, et donc du coup, il va littéralement avoir des giclures sur les murs et, autour de lui. Et en fait, cette vidéo s'appelle Performance Painting numéro 2. Et donc, c'est une façon de se référer à l'action painting de Pollock et au fameux dripping. Et là, ce qui est intéressant aussi avec ces vidéos, c'est qu'on a un renversement, c'est-à-dire que le dripping de Jackson Pollock, la toile était posée à même le sol et l'artiste était au-dessus. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu l'inverse, puisque c'est bon, d'une part, encore une fois, le corps de l'artiste qui devient le médium, le pinceau, on pourrait dire, en quelque sorte. Et la toile n'est plus vraiment au sol, mais elle est autour même du corps de l'artiste. Donc voilà, il y a ce renversement qui m'intéressait et qui peut du coup nous renvoyer à ces pièces posées à même le sol de Paul Ragenès. On voit comme ça justement hein, ces éclats de matière sur le papier. Donc en fait, cette vidéo fait partie d'un ensemble de recherches que Nicolas Flock a mené autour de la peinture et de la performance, notamment une autre vidéo qui s'appelle Performance Painting numéro 1, où Nicolas Flock a collaboré avec un danseur et chorégraphe qui s'appelle Alain Michard. Et le corps de ces deux personnes donc, sont filmés. Ils sont tous les deux recouverts de peinture fraîche. L'un est recouvert d'une peinture blanche, l'autre d'une peinture noire. Et leurs deux corps vont comme ça se rencontrer dans le cadre de cette performance. Et du coup, le noir va venir polluer le blanc et réciproquement. Et en fait, c'est une double projection. Parce que sur un des écrans, on a un fond blanc et sur l'autre, on a un fond noir. D'accord.
Nicolas Flock est né en 1970, il vit et travaille à Paris. Il explore des pratiques artistiques en fonction des contextes qu'il investit, se déclinant sous la forme d'installations, de sculptures, de films, de photographies, de performances ou de scénographies. Ses propositions s'inscrivent dans le champ de l'expérimentation et de la collaboration.